sujet de discussion.
Madame, Monsieur, soyez les bienvenus à Sujet de discussion. Aujourd'hui, nous allons parler de la cybercriminalité. La cybercriminalité qui représente une menace mondiale qui touche toutes les sphères de la société, des individus aux institutions en passant par les entreprises. En Côte d'Ivoire, ce phénomène a pris de l'ampleur ces dernières années et ses répercussions se font de plus en plus sentir. Les réseaux sociaux en particulier sont devenus des terrains propices aux activités malveillantes, exposant les citoyens à divers types de cybercrimes tels que l'escroquerie, le vol de données personnelles ou encore le harcèlement en ligne. Face à cette réalité, il est essentiel de mieux comprendre l'ampleur et les dangers de la cybercriminalité, mais aussi d'identifier les moyens de se protéger. Alors pour en parler, nous recevons Tala Moifeu, ingénieur IT. Il est en ligne avec nous. Bonjour Tala.
Bonjour Christelle Yesso.
Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation.
Avec plaisir.
Et avec nous dans ce studio, nous avons le directeur groupe du pôle cybersécurité de Neurotech, Herman Koudafoké. Bonjour.
Bonjour madame.
Soyez le bienvenu dans nos studios.
Merci.
Alors, avec vous, nous allons parler des stratégies pour lutter contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. On va commencer avec vous, Tala Moifeu. Vous êtes ingénieur IT. Alors, dites-nous, c'est quoi un ingénieur IT?
Un ingénieur IT, c'est simplement un mot anglais francisé pour dire information technology. Donc, on pourrait dire simplement en français technologie de l'information. Voilà, et de la communication. Donc, ça rassemble tout ce qui est système d'information et de communication à distance.
D'accord. Alors, vous œuvrez aussi dans la cybersécurité?
Exactement. Donc, la cybersécurité fait partie des défis dans l'établissement des plateformes de SI, hein, des plateformes de système d'information. Parce que à partir du moment où on a un système d'information, il faut vérifier qu'il n'y a pas de vulnérabilité. Il faut donc vérifier que la plateforme est sûre. Et à partir de ce moment, on a besoin de ressources cybercriminalité.
Voilà qui est bien clair. Alors, vous, Herman, vous êtes directeur groupe du pôle cybersécurité de Neurotech. Parlez-nous un peu de vos activités au quotidien.
D'accord, merci. Déjà, Neurotech, c'est une entreprise qui s'inscrit comme étant une SS2I. C'est une entreprise qui délivre des services orientés sur le secteur informatique. On existe depuis 22 ans maintenant. On a un pôle d'activité qui est basé sur 9 pays, dont le siège est à Dakar. Sur le pôle cybersécurité, qu'est-ce qu'on fait régulièrement, si vous voulez? On fait de la cyberveille, donc c'est la capacité à accompagner nos entreprises finales à protéger leurs actifs informationnels. Donc le serveur, les équipements informatiques, on les protège. On a également une division qui est en charge de tout ce qui est enquête numérique. Au cas où une entreprise se fait attaquer, comme dans une scène de crime, on investigue au besoin. On sait également accompagner enfin les entreprises à s'aligner sur tout ce qui est conformité, ISO 27001. Je pense qu'on aura le temps d'en parler.
Oui, bien sûr. Alors voici ainsi présentés nos invités. Nous allons à présent entrer dans le vif du sujet. Alors la Côte d'Ivoire est l'un des pays en Afrique où la cybercriminalité est assez développée. Depuis le phénomène de broutage, l'on se méfie beaucoup de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, mais ce n'est pas le seul cybercrime. Alors, quels sont les autres cybercrimes que l'on retrouve sur Internet aujourd'hui? Tala Moifeu.
Oui, merci pour la parole. Il faut dire que de façon générale, hein, comme vous avez entendu l'intervention du directeur pôle sécurité de Neurone tout à l'heure, la Côte d'Ivoire fait face à l'ensemble de tous les types de cyberattaques. Donc, que ce soit les attaques visant les réseaux et les systèmes, c'est-à-dire les attaques classiques qui empêchent l'exécution des services en ligne, hein, notamment les dénis de services, ce qu'on appelle DOS, Denial of Service, que ce soit les injections de code pour modifier le fonctionnement d'une application, que ce soit au niveau de la base de données pour SQL Injection, et également, n'est-ce pas, des attaques par force brute où on va utiliser un ordinateur pour forcer des mots de passe, etc. Et surtout, le fameux money demi de ça, c'est pour ce qui est des réseaux et des systèmes. Mais il y a aussi les attaques qui ciblent les utilisateurs. Donc, généralement, au niveau des utilisateurs, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont faire du phishing, par exemple, hein, en envoyant un email frauduleux pour pousser les utilisateurs à fournir des informations peut-être confidentielles comme leur mot de passe. On peut envoyer un mail aux employés d'une entreprise, hein, en leur disant « Attention, le service informatique va faire une mise à jour du serveur, veuillez donner tous vos mots de passe et dans 24 heures, revenez vous connecter. » Voilà, donc ce sont des petits pièges comme ça qu'on envoie souvent aux utilisateurs dans le cadre des attaques qui ciblent les utilisateurs. Mais également, Il faut connaître qu'en Côte d'Ivoire, pour une population d'environ 29 millions d'habitants, on a 25 millions de comptes abonnés connectés au téléphone, ce qui correspond donc à une pénétration de l'Internet de 89,7%. Donc, pour faire rond, on va dire en Côte d'Ivoire, il y a une pénétration de l'Internet qui est autour de 90%. Donc, il y a une forte menace qui est liée à l'ingénierie sociale. Donc, les gens vont manipuler les utilisateurs, leur demander des informations personnelles et ensuite les menacer en volant les individus. À côté de ça, il y a les attaques classiques qui sont liées au malware, c'est-à-dire ces applications qui vont empêcher le fonctionnement normal d'un système, c'est-à-dire les virus, les vers, les chevaux de Troie, les ransomware, les routines, par exemple, pour ne citer que cela. Il y a aujourd'hui d'autres nouveaux types d'attaques qui naissent, qui attaquent justement notamment les crypto-monnaies, comme l'attaque du crypto-jacking. On est en train d'évoluer vers l'Internet 5G dans le mobile. L'Internet 5G est une Internet qui va faciliter l'IoT, Internet of Things, donc l'Internet des objets connectés. Il y a donc des attaques qui ciblent maintenant les objets connectés. C'est-à-dire que vous avez par exemple votre robot à la maison qui est supposé nettoyer, balayer votre salon, et quelqu'un, à partir d'une connexion Internet, il peut faire une autre action à votre robot à l'intérieur de votre maison, ou encore il modifie l'orientation de vos caméras, etc., etc. Pour revenir dans le cas précis de la Côte d'Ivoire, il faut dire qu'on a le gouvernement de Côte d'Ivoire avec ses partenaires techniques reconnaissent qu'il y a 5 attaques principales au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a la menace de publication d'images à caractère sexuel, c'est ce qui est le plus fréquent. Donc, quelqu'un convainc un utilisateur d'envoyer ses photos des nudes, comme on le dit souvent, et par la suite, à travers un faux compte, évidemment, et par la suite, la personne va exiger, faire du chantage et menacer, n'est-ce pas, la publication donc de ces images à caractère sexuel. On a également la fraude sur les transactions électroniques, donc c'est tout ça qui fait partie du potage. On a également l'utilisation frauduleuse des éléments d'identification. Donc vous allez avoir quelqu'un, un compte quelqu'un qui s'appelle Jolie Salomé ou bien Poupée Luna, mais en réalité ce n'est ni Jolie Salomé ni Poupée Luna qui est derrière. On a en fait une personne qui est en train de faire une usurpation d'identité. Un peu comme dans la vraie vie, on peut avoir des personnes qui volent, n'est-ce pas, les amis des gendarmes, des policiers, et qui se font passer pour de vrai dans la vie. C'est un petit peu comme ça. Et on a surtout l'atteinte à l'image, à l'honneur, et l'escroquerie en ligne. Voilà donc, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, les 5 menaces principales. Et vous voyez, toutes ces 5 menaces principales font donc partie de la catégorie ingénierie sociale.
En tout cas, ça fait vraiment beaucoup et ça fait surtout peur quand on se rend compte que même les appareils électroménagers peuvent être utilisés de l'extérieur. Ça, c'est vraiment effrayant. Vous, Herman, de votre côté, quels sont les cybercrimes que vous observez généralement ?
D'accord. Nous, sommes dans une posture plus entreprise, donc on apporte de la plus-value aux entreprises de la place. Sur l'écosystème ivoirien et dans la sous-région de façon plus large, je rejoins monsieur. Donc, il y a effectivement des escroqueries en ligne, justement. Dans le domaine bancaire, qui est la cible la plus prisée par les attaquants aujourd'hui, on va remarquer des attaques de type ransomware. Le ransomware, c'est le fait, par exemple, de profiter d'une faille informatique au sein d'une entreprise pour chiffrer l'ensemble des données. Donc, on va dire, par exemple, qu'on vient le matin au bureau et le PC ou les ordinateurs de tout l'ensemble des utilisateurs est chiffré. Et derrière, on verra des organisations très, très bien ciblées, quelquefois financées par des États, qui vont demander de l'argent pour pouvoir justement débloquer, quoique ce n'est pas forcément évident de le faire. Enfin, on a une attaque qui est très, très récente, qui commence à faire des ravages en Côte d'Ivoire, qu'on appelle le deepfake. Le deepfake, c'est le fait d'utiliser l'image d'un PDG, par exemple d'une entreprise, sa voix, sa gestuelle, la faire rentrer dans une session et pousser les utilisateurs ou les employés de cette entreprise justement à faire croire que c'est justement la personne légitime. Donc ça pousse les utilisateurs légaux de l'entreprise à quelquefois mener des actions pour justement décaisser des fonds, etc. Donc je ne vais pas faire plus long, mais voilà un peu ce que nous retrouvons la plupart du temps sur l'écosystème ivoirien.
Voilà, et le deepfake qui est assez connu surtout dans le milieu politique. Exactement. On voit que les images des hommes politiques sont souvent utilisées pour inventer des histoires, voilà, pour créer de la propagande un peu. Exactement. Voilà, c'est quelque chose d'assez connu. Mais il y a tellement de phénomènes, et pour prévenir tout ça ici en Côte d'Ivoire, il y a quand même plusieurs stratégies qui ont été mise en place tant au plan national qu'international. Déjà avec Facebook, on a constaté ces derniers temps ces algorithmes-là qui souvent ciblent des messages ou des mots qu'on pourrait écrire qu'ils trouvent peut-être violents et ils interpellent par derrière les utilisateurs sur ces mots-là qu'ils utilisent. Alors expliquez-nous un peu, Herman, on va rester avec vous, comment fonctionnent ces algorithmes ?
D'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des réseaux sociaux, notamment la suite Meta, Instagram et tout ce que vous connaissez, ont des algorithmes assez poussés pour justement fédérer, réguler l'utilisation de leur contenu, enfin des contenus sur leur plateforme. Ça va essentiellement s'appuyer sur de l'IA. Le thème encore est sorti. Il semble être un thème très tendance aujourd'hui, mais en réalité, Facebook, dans le temps Facebook, avait un programme qui était appelé le Facebook IA Research. C'est une plateforme c'est un centre de recherche autour de l'intelligence artificielle qui existe depuis 2013 chez Facebook, qui vient en réalité apporter de la plus-value aux algorithmes qu'ils mettent en place. Donc vous allez voir que dans ces algorithmes, il y aura deux types d'intelligence artificielle. Il y aura l'intelligence artificielle supervisée et l'intelligence artificielle non supervisée. C'est quoi le mécanisme derrière? Lorsque vous postez une photo, un texte qui, selon les tags, ne sont pas appropriés à la déontologie Facebook, automatiquement cela sera signalé vers une ressource interne de Facebook qui pourra apporter une mesure de... Je vais utiliser le terme blocage si vous voulez. Donc en réalité, on a l'impression que l'IA est très nouveau dans le domaine dans la fédération des activités cyber. Mais en réalité, c'est un thème qui existe depuis très longtemps. Donc, ce qui va se passer sur les réseaux sociaux, c'est que le mécanisme existe déjà. Vous allez voir que même lorsque vous êtes au téléphone, vous abordez un sujet, vous voulez acheter peut-être une cafetière, etc. Les jours qui vont suivre, on va vous proposer des cafetiers en images, etc. Donc, quelquefois, nous sommes écoutés, etc. Et si une personne mal intentionnée poste une photo indécente, vous allez voir qu'elle sera proscrite pendant une certaine période. Même un test, un argument qui est contre la déontologie éthique publique, elle sera tout de suite blacklistée. Donc, il y a tout un mécanisme d'algorithme qui est mis en place derrière par Facebook depuis 2013, comme je le disais.
Alors, vous disiez que même les appels sont écoutés.
Exactement, exactement.
Waouh, ça, c'est assez effrayant quand même. Hein.
On peut le dire. Ça dépend de la casquette dans laquelle on se met. Si on reste dans la posture américaine avec le programme Patriot, ils auront des arguments pour le défendre, etc. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses à faire.
On va revenir là-dessus. Alors, avec vous, Talha Moifeu, comment est-ce que vous évaluez l'efficacité de ces algorithmes dans la détection des activités en ligne, surtout par rapport aux interventions humaines?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la plupart des cyberattaques, des cybermenaces, l'objectif, c'est de compromettre l'un des trois piliers de la cybersécurité, à savoir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de l'information, de la data. Ce qu'on appelle le triple CIA en anglais, pour confidentiality, integrity et puis availability. Donc, vous avez eu un tout petit peu peur tout à l'heure parce que le directeur pour la sécurité vous a dit qu'on écoutait les appels, etc. Mais à la réalité, il faut comprendre qu'on n'est pas là vraiment pour écouter tout ce qui se passe, mais en réalité, on sonde, n'est-ce pas? Les algorithmes sont conçus pour détecter une certaine liste de mots jugés hors éthique ou encore hors déontologie. Donc, on n'écoute pas réellement tout ce qui se dit. Il y aurait un problème d'espace, mais à la réalité, on va détecter des mots-clés, des mots jugés hors éthique. Et à partir de ce moment, le système de sécurité ou bien le système de défense va donc se mettre en place. Il faut dire que, s'agissant toujours, n'est-ce pas, des algorithmes, hein, à la réalité, c'est également ça qui permet d'avoir une expérience personnalisée sur les réseaux sociaux. Vous imaginez qu'il y a 2 milliards de comptes Facebook qui existent. Pour une population mondiale, on a dépassé les 7 milliards, maintenant 9 milliards. 2 milliards de comptes Facebook. Imaginez si vous devriez échanger avec 2 milliards de personnes sur Facebook, même 3 vies, 5 vies, même 500 ans ne suffiront pas, même 1000 ans ne suffiront pas. Et donc, du coup, les algorithmes vont vous permettre de cibler ce qui vous intéresse. On est en Côte d'Ivoire, on est en Afrique subsaharienne. Et donc, du coup, tout ce qui va venir vers nous sera donc des choses qui concernent et qui intéressent cette zone. C'est cela qui permet, en fait, l'engagement de l'utilisateur et c'est cela qui facilite également la monétisation dans le sens où, à partir de ce que vous faites, de ce que vous cherchez, on peut effectivement vous envoyer des publicités ciblées. Si par exemple vous allez beaucoup sur les sites de sport, ne soyez pas surpris qu'on vous envoie des publicités de paris sportifs. Monsieur l'a dit tout à l'heure, si vous appelez pour commander une cafetière, ne soyez pas surpris que dans les instants qui vont suivre, on vous envoie des différents types de publicités de cafetières. Et en plus, hein, en tenant compte bien sûr de l'adresse IP de la zone géographique, on vous envoie donc des adresses de publicités qui sont ciblées pour des annonceurs qui sont dans votre zone.
Et donc, ces algorithmes, comment est-ce qu'ils fonctionnent dans le cadre d'activités criminelles sur les réseaux, sur Internet?
Dans le cadre de l'activité criminelle, il faut dire que la qualité de l'algorithme en termes de fonctionnalité est aussi liée au défi que ça apporte. C'est-à-dire que ça crée, n'est-ce pas, des doutes sur la sécurité de la vie privée. Pourquoi? Pour que l'algorithme fonctionne, il faut pouvoir collecter massivement des données liées aux utilisateurs. Il faut avoir le nom, il faut avoir le prénom, il faut déjà avoir l'âge. En fonction de l'âge, on sait ce qu'on va vous proposer comme publicité. Il faut avoir le lieu d'habitation, il faut avoir par exemple la fonction professionnelle, le travail, l'emploi. Et donc, il y a tout ce besoin de collecte massive des données et ces données sont donc très souvent à caractère personnel et donc ça pose la problématique de la sécurisation de ces données. Donc aujourd'hui, les plateformes qui sont là, les solutions qui sont mises à disposition sont là pour s'assurer qu'effectivement ces informations sont utilisées de façon éthique et uniquement pour ceux à quoi elles sont destinées.
Voilà, alors vous parliez de protection de données personnelles, mais dites-nous en fait, est-ce que ces algorithmes, ils n'enfreignent pas un peu cette liberté d'expression? Est-ce que c'est vraiment permis qu'ils s'infiltrent autant dans la vie des personnes?
Les algorithmes, ils s'infiltrent dans le sens où ils font des analyses à la réalité. Donc, ils vous laissent libre, hein, ils ont bien entendu besoin que vous puissiez vous exprimer au maximum pour qu'eux aussi puissent capter le maximum d'informations. Donc, ils ne font que utiliser, n'est-ce pas, l'analyse de ce que vous faites sur Internet, que ce soit vos informations personnelles ou que ce soit, par exemple, les sites que vous visitez, les pages que vous consultez, etc., etc.
Alors, Herman Koudafouke, est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même une atteinte à la liberté, une atteinte à la protection des données personnelles des utilisateurs?
Je pense pas. Je veux rejoindre justement monsieur. Je ne pense pas. Les algorithmes tels que pensés, tels que mis en place, sont aujourd'hui un mal nécessaire. Vous savez, à la fois, ça permet de pouvoir orienter le type de contenu à proposer à un utilisateur. Ça permet également de mettre, comme il l'a dit tout à l'heure, des tags. Les tags, si vous voulez, ce sont des mots-clés qui permettent justement de pouvoir réguler tout ce qui concerne les publications sur les réseaux sociaux. Donc moi, je pense que c'est un mal nécessaire. Si ce n'était pas le cas, on allait voir sur toutes les plateformes ce qu'on voulait, etc., des messages de propagande, etc., etc. Donc je pense que c'est un mal nécessaire.
D'accord. Alors ici, en Côte d'Ivoire... Oui, allez-y.
Pour ajouter un petit peu, il faut dire que c'est un mal nécessaire et c'est justement la raison qui pousse l'État à se doter des instruments, en espace qui permettent de suivre et de surveiller cela. En Côte d'Ivoire, en l'occurrence, hein, on a un régulateur,
oui.
La régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire, l'ARPC. Voilà.
Et donc, ils sont chargés de réguler toutes les activités qui se passent sur le net. Et donc, parlons donc de la Côte d'Ivoire. On a pas mal d'initiatives qui sont prises, comme vous le disiez tout à l'heure. Là, vous avez parlé de l'ARTCI. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui sont prises, Tala?
Exactement. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, il faut dire que l'une des plus grandes actions que la Côte d'Ivoire a faite, c'est l'établissement de la PLCC, qui est la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Donc, ce sont les actions de cette plateforme avec tous ses partenaires techniques. Hein. Je vais citer en l'occurrence le laboratoire national de cybercriminalité. Donc, ce sont des organes techniques qui permettent vraiment de lutter. Ils sont formés, ils sont disposés, ils ont les moyens pour vraiment lutter contre la cybercriminalité. Et j'ai envie de dire d'emblée que c'est l'ensemble de leurs actions qui a permis d'assainir le milieu, le cyberespace, en Côte d'Ivoire particulièrement. Parce qu'il y a quelques années de cela, on était vraiment beaucoup blacklistés. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est quand même considérée comme une zone sérieuse. Et c'est grâce justement à ces organes, la PLCC, la LNC ainsi que tous les partenaires techniques.
Mmh. Et avec vous, Herman, on va parler un peu de l'activité de la PLCC, surtout sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens se plaignent de cette plateforme-là. On a l'impression qu'elle empêche certaines personnes de s'exprimer, surtout sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous, vous pensez ? Est-ce que la PLCC est vraiment efficace dans la lutte contre la cybercriminalité ?
Plus que jamais. C'est l'un des moyens les plus efficaces qu'a mis en place l'État de Côte d'Ivoire, justement, pour réguler tout ce qui est contenu sur les réseaux. Donc moi, je pense que plus que jamais, c'est une instance qui existe depuis pratiquement 2011-2012, je pense. Hein. Donc elle est nécessaire aujourd'hui. Donc voilà, je pense que c'est plus qu'indispensable aujourd'hui. Et puis, c'est pas seulement cette seule entité qui existe hein, sur le marché, enfin sur l'écosystème ivoirien pour fédérer la question cybersécurité. Je ne sais pas si vous allez en venir, mais je vais peut-être en profiter.
Oui, allez-y. Mmh.
Donc il y a également, au-delà de cet aspect, il y a le centre de réponse aux incidents. Je m'explique, nous sommes une entreprise qui fournissons des services informatiques. Le centre de réponse aux incidents, c'est, si vous voulez, c'est une entité qui a pour objectif de répondre aux incidents de sécurité qu'elle cible à la fois les États, les organismes, les banques, etc., etc. Donc c'est une instance qui font que surveiller 24/24 les actifs informationnels de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a également mis en place une stratégie nationale de sécurité qui existe depuis 2015. Donc c'est une stratégie qui vient orienter la stratégie nationale. C'est en réalité la boussole qui dit comment est-ce que la question de la cybersécurité doit être orientée par rapport à la Côte d'Ivoire. Et tout récemment, la Côte d'Ivoire a mis en place une autorité exclusivement dédiée aux questions de la cybersécurité qu'on appelle l'ANC. Il y a seulement une ou deux semaines que dans un décret, cela a été promulgué. Voilà.
Mmh. En tout cas, pas mal d'initiatives qui sont prises du côté national, mais qui ne sont pas très connues aussi du grand public.
Exactement.
On ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Herman ?
Pourquoi est-ce que
la population n'est pas au courant de tout cela ?
Je pense que c'est une question d'acculturation. L'État fait le nécessaire. Les plateformes existent, les différentes lois, peut-être on aura le temps d'en parler. Tout existe. Je pense que ce qu'il faut peut-être renforcer, c'est la communication de masse auprès des populations qui ne comprennent pas forcément la question cyber, mais ça existe depuis très longtemps. Pour nous, professionnels de la cybersécurité, aucune action n'est entreprise sans avoir apprécié naturellement la loi, les différentes stratégies mises en place. Et on collabore avec, par exemple, le CERT. On collabore, nous, régulièrement avec eux. On ne peut pas entreprendre des actions unilatérales. C'est pas possible. C'est de la collaboration qui fait qu'on est efficient sur le marché. Donc, je pense que pour la population, il faut davantage renforcer la communication.
Mmh. Voilà. D'accord. Alors, on va parler un petit peu de l'aspect juridique de tout cela. Mmh. Est-ce qu'il existe une loi ivoirienne qui régule les actions, les mouvements sur Internet ici en Côte d'Ivoire, Talha Mouafeu ?
Merci, Christelle. Alors, pour ce qui est, par exemple, de la PLCC, c'est une plateforme qui a été créée en 2011, justement, comme le disait le directeur tout à l'heure. Et à partir de là, il y a eu des évolutions, notamment en l'année 2013, il y a vraiment une loi sur la cybercriminalité qui a été pour une fois clairement dite et énoncée en l'année 2013. Alors, c'est une loi, hein, les juristes, elle a plusieurs volets, je pense que c'est un document qui fait une dizaine de pages. On invite les internautes et les auditeurs à faire une recherche là-dessus, mais pour à titre indicatif, c'est une loi donc qui date de 2013, du 19 juin 2013, et c'est la loi 2013-451, voilà, qui porte sur la lutte contre la cybercriminalité. Je vais vous expliquer un petit peu tout à l'heure en quelques points et en quoi ça consiste. Mais bien avant cela, je souhaite vous dire que à l'issue de cette loi, en 2019, la Côte d'Ivoire a fait un grand pas, n'est-ce pas, en adhérant, n'est-ce pas, en ratifiant la Convention de Budapest sur la cybercriminalité. Ce qui signifie que la Côte d'Ivoire peut désormais s'appuyer sur des partenaires extérieurs pour résoudre des problèmes de cybercriminalité. C'est à l'issue donc de la ratification de la loi 2019 sur la cybercriminalité, sur la Convention de Budapest, que la Côte d'Ivoire annonce son programme 2021-2025 qui devrait consister par la mise au point de l'ANC. Et chose promise, chose due, le directeur vient de vous confirmer tout à l'heure, effectivement, l'ANC a été mis sur pied il y a deux semaines. Donc, c'est pour dire que la chose de cybercriminalité et cybersécurité est vraiment au cœur des actions gouvernementales. Mmh. Maintenant, pour revenir rapidement sur cette loi, on va pas aller en profondeur parce que les lois sont, n'est-ce pas, justement, longues et coriaces, mais je vais donner le point essentiel. Le but, justement, était de mettre en place un cadre légal, solide, parce que la technologie va souvent plus vite que la loi. Et donc, il fallait que la loi se mette à jour en adoptant un cadre légal, un espace pour ne pas définir et cadrer les actions numériques sur le cyberespace. Le deuxième point qu'il faut retenir, c'est que cette loi reconnaît, et c'est vraiment un point très important, elle reconnaît et protège les droits des individus dont les données sont traitées. C'est-à-dire que si vous êtes en Côte d'Ivoire et que vos données sont utilisées par une quelconque entité, l'État vous reconnaît ses droits et se donne le devoir de les protéger. Donc, je vais laisser le directeur en
parler. Oui, voilà. Herman, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la loi ?
Oui, bien sûr. Donc, en plus de la 2013-451, je vais aborder le point concernant la protection de données à caractère personnel. Il y a également une loi qui vient renforcer justement les actions entreprises pour protéger les utilisateurs, qui est la 2013-450, également qui a été mise en place par l'État pour fédérer, pour réguler toutes les questions relatives à la protection des données. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'utiliser les données des utilisateurs, vos données par exemple, à des fins personnelles de façon unilatérale. Cela est régi par des lois. Et même pour aller plus loin, dans l'évolution de la stratégie cyber en Côte d'Ivoire ou de la stratégie de protection numérique, en 2017 également, une loi du nom de la 2017-1384 existe en Côte d'Ivoire, a existé plutôt en Côte d'Ivoire et est d'actualité jusqu'à aujourd'hui, qui vient en réalité fédérer toutes les actions liées à l'utilisation de la télécommunication. Donc la Côte d'Ivoire fait des efforts, fédère les actions, chose qui n'est pas forcément le cas dans pas mal de pays où nous exerçons. Comme je le rappelle, nous sommes sur 9 pays. Quand vous partez dans les pays de la sous-région, ce n'est pas forcément le cas. Je pense qu'on aura le temps dans la suite, lorsqu'on parlera du classement, etc.
Oui.
Si on a le temps d'aborder ce point.
Et moi, dans mes recherches, j'ai aussi entendu dire que même lorsqu'on pose une caméra dans la maison, on doit informer les habitants de la maison ou même les visiteurs qu'il y a une caméra là. Sinon, on ne pourra pas utiliser les images de la caméra. C'est ce que la loi dit aussi ?
J'ai pas bien compris la question.
Voilà, lorsque vous mettez une caméra, par exemple, dans cette pièce, et que à la fin, peut-être, il y a eu un vol, vous voulez utiliser les images de ce vol, peut-être au commissariat, pour prouver un peu ce qui s'est passé, on nous dit que ces images ne sont pas recevables devant la loi, parce que les personnes n'ont pas été informées qu'elles étaient filmées.
Oui, bien sûr, c'est déjà vrai, mais je prends un autre cas plus simple. Vous voyez, lorsqu'on rentre dans un établissement, une entreprise par exemple, habituellement ce qui se faisait, on demandait vos informations depuis la guérite. Aujourd'hui, cela ne doit pas se faire comme ça, à la volée, demander vos noms, votre date de naissance, etc. Cela, je ne dirais pas que c'est proscrit, mais en réalité, la Côte d'Ivoire a mis en place un mécanisme pour protéger les données des utilisateurs personnels. Donc, que ce soit dans le cadre d'une enquête, dans le cadre d'une information classique, lors d'une visite dans une entreprise, les informations que vous fournissez à une personne tierce sont aujourd'hui régulées par une loi qui est mise en place, qui est la 2013-450.
Aujourd'hui, on a toujours des personnes qui, lorsqu'on va dans certains endroits, nous demandent nos pièces d'identité. Alors, cela n'est plus permis ?
Non, vous allez remarquer que lorsque vous partez en banque, par exemple, lorsque vous voulez faire un dépôt chèque, etc., ou rencontrer une personne, surtout même faire un dépôt physique d'argent, on vous donne une fiche à remplir, qui est une fiche qui dit que vous autorisez que vos données soient enregistrées par la banque en question. Donc il y a des efforts qui commencent à être faits par les entreprises finales pour justement s'aligner à cette loi. Sinon, de façon normale, ce n'est pas possible.
Donc ce n'est plus permis.
Ce n'est plus permis.
Voilà,
si c'est permis, il faut avoir une donnée qui le justifie, vous devez émarger, signer, etc.
D'accord. Alors on va aborder un autre aspect. Vous œuvrez tous les deux dans des structures qui luttent donc contre la cybercriminalité. Et on aimerait bien savoir quels sont les principaux défis que vous rencontrez au quotidien dans la prévention ou même la répression de ces actes criminels. On va commencer avec vous, Tala Moifeu.
Merci beaucoup, Christelle. Il faut dire que comme défi, il y en a deux principaux que je vois, les deux qui me tiennent à cœur. Le premier défi, et monsieur l'a dit tout à l'heure, c'est la culturation. Les utilisateurs ne sont pas du tout informés et les utilisateurs ne vont pas à la bonne source d'information. Les utilisateurs ne sont plus à l'écoute des professionnels. Aujourd'hui, les gens, ils se connaissent, ils regardent des vidéos sur des réseaux sociaux et c'est ce qu'ils prennent pour monnaie comptante. Et c'est dangereux. Les professionnels, les experts, n'ont pas le temps d'aller sur les réseaux sociaux pour faire des vidéos à longueur de journée. C'est ça qui est le problème. Et donc, du coup, comme les utilisateurs n'ont pas la bonne information, ils n'ont pas la bonne connaissance, ils ont donc des attitudes qui créent des vulnérabilités. Et à partir du moment où on est dit qu'il y a des vulnérabilités, eh bien, les cyberattaquants peuvent les exploiter. Je donne un exemple très simple. Vous entendez souvent des gens dire, il y a quelqu'un qui a essayé de m'arnaquer sur Internet, mais il ne me connaît pas, hein. De toute façon, je l'ai insulté. Ça, par exemple, c'est une erreur d'utilisateur. À partir du moment où vous répondez à une tentative de phishing, vous donnez la confiance à l'attaquant si effectivement votre compte est fonctionnel. Et donc, ça le met en confiance. Il va donc organiser d'autres attaques, beaucoup plus organisées, beaucoup plus évoluées contre vous. Donc, il vaut mieux d'abord ne pas répondre et surtout s'adresser à des professionnels, comme la PLCC par exemple. Donc, on doit faire en sorte que le grand public soit informé, ait la bonne information, l'information dans les canaux officiels. Il y a vraiment beaucoup de déchets. Je regarde des vidéos sur les réseaux sociaux qui donnent vraiment mal à la tête. Le deuxième point, c'est au niveau professionnel. Il y a un jargon qui dit souvent que quand le serpent te mord, quand tu vois le ver de terre, tu as peur. Mais dans notre espace, en Afrique subsaharienne, on a vraiment toujours besoin d'attendre la morsure du serpent pour avoir peur du ver de terre. C'est-à-dire que plusieurs entreprises, aussi bien les GE que les PME, on a 75% d'entreprises en Abidjan, mais je vous dis que la plupart de ces entreprises n'ont pas une politique de cybersécurité en leur sein. Il n'y a pas de personnes chargées de la cybersécurité. Les employés ne sont pas forcément formés tout le temps. Et il y a une grande menace qui plane, c'est celle de l'intelligence artificielle. Je veux dire surtout celle de la divulgation des assistants d'intelligence artificielle. Son intelligence artificielle, elle existe depuis plus d'un demi-siècle aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a la prolifération des assistants d'intelligence artificielle qui vont donc utiliser des outils d'intelligence artificielle à l'arrière pour mettre à disposition des attaques beaucoup plus sophistiquées. Et dès lors, à partir de maintenant, il faudrait que toutes les entreprises sachent qu'elles devraient adopter une politique de cybersécurité sérieuse parce que les attaques vont aller crescendo, pour ne pas dire exponentielle. Voilà, c'est ici.
Voilà, ok, cité. Et vous, de votre côté, Herman, quels sont les défis que vous rencontrez?
Alors, nous sommes dans le domaine de la cybersécurité défensive et offensive depuis très longtemps. On rencontre un défi qui est majeur. Le premier défi, c'est la question de l'acculturation du secteur décisionnel. Je parle des directeurs d'entreprise, des DAF, etc. La question cybersécurité n'est pas encore une priorité pour ces décisionnels. Ils ont juste une priorité, faire du chiffre d'affaires, etc. Lorsqu'on part, nous, en tant qu'entreprise, proposer des solutions de sécurité pour justement prévenir des menaces, prévenir des attaques, on nous fait comprendre que c'est budgétivore, ça ne pourra pas passer, etc. Mais à la minute où ils se font attaquer, ces mêmes entreprises sont prêtes à dépenser, tenez-vous bien, 500 millions, 1 milliard, quelquefois, pour deux aspects. Pour éviter que l'attaque ne se fasse connaître du grand public, donc ils veulent protéger leur notoriété. Et la deuxième chose, pour protéger justement leur poste. Donc on a cette grosse question-là qui revient de plus en plus. Et un autre aspect, c'est le manque de ressources qualifiées. On n'en parle peut-être pas très souvent, mais il n'y a vraiment pas de ressources qualifiées dans le domaine de la cybersécurité. Donc quelles que soient les bonnes initiatives entreprises par l'État, etc., lorsqu'on n'a pas les ressources qui sont qualifiés, disponibles pour travailler dans l'écosystème ivoirien notamment, nos efforts ne serviront absolument à rien. On a constaté, M. Poural confirmé, lors des 10 précédentes années, que la plupart des ressources ivoiriennes qui étaient formées routaient vers les pays maghrébins, etc., ou même l'Europe, parce que selon ces ressources, il y a plus de challenges à vivre de l'autre côté. En réalité, le marché ivoirien et sous-régional, il est vierge. Il a besoin d'avoir de la compétence assez poussée pour justement apporter de la réponse. Donc pour moi, ce sont les deux gros défis. Le problème de mindset concernant nos dirigeants et le manque de ressources qualifiées.
Et face à tous ces défis, on se demande, mais que faut-il faire? Et tout à l'heure, Talha nous parlait un peu de ces appels-là qu'on reçoit de certains individus qui essaient de nous arnaquer sur nos comptes. Et il nous disait qu'il vaut mieux ne pas répondre. Alors, pour aller dans le même sens, on se demande quelles sont les bonnes attitudes à adopter pour un utilisateur. Talha, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils?
Merci bien pour la question. Et c'est comme je disais un petit peu dans mon intervention précédente, c'est de faire en sorte que les utilisateurs soient formés. Bien vrai qu'il y a déjà un effort qui est fait dans ce sens, parce que quand vous allez, par exemple, sur la plateforme de la PLCC, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou autre, par exemple, ils font, n'est-ce pas, l'effort d'informer le grand public. Je sais qu'il y a également la police nationale qui a une page sur les réseaux sociaux, sur Facebook, n'est-ce pas, qui donne des conseils aux utilisateurs. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il faut continuer, il faut pouvoir amplifier, il faut pouvoir augmenter la fréquence de ces informations et de ces bonnes informations. Mieux les utilisateurs auront la bonne information, mieux ils seront, j'ai envie de les former, hein, dans le cas des utilisateurs du type employé, et les attaques pourront avoir lieu avec peu de succès.
Ok, alors avec vous, Herman, on va revenir un peu sur les comportements à risque qu'il faut éviter lorsqu'on est sur Internet pour éviter de se faire arnaquer.
Déjà, il faut éviter de publier tout et n'importe quoi.
D'accord.
Ça, c'est le premier aspect. Malheureusement, on a une tendance à croire qu'il faut partager tous ces moments sur Internet. On voit des personnes qui publient tout et n'importe quoi. C'est l'une des choses à éviter parce que dans le process d'ingénierie sociale, qui est un thème très technique utilisé par M. Tala tout à l'heure, c'est une technique qui consiste à étudier le comportement d'une ressource. Je prends une cible qui s'appelle peut-être Alpha ou Omega. L'objectif d'un attaquant, c'est d'étudier le comportement de cette personne. Donc concrètement, si c'est une personne qui a tendance à reposter des vidéos d'enfants perdus, égarés, etc., l'attaquant va faire du profiling. Il va, au fur et à mesure, savoir quel type de mindset a sa cible en face. Une fois que ça c'est fait, il va pouvoir organiser une attaque informatique ciblée à cette personne pour justement atteindre ses fins, si vous voulez. Maintenant, dans le cadre d'une escroquerie en ligne, etc., ça revient à la même chose. Il faut éviter de publier tout et n'importe quoi. Parce que les escroqueries en ligne partent dans un premier temps dans l'étude du mindset, du comportement de la ressource. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut créer une conclusion sur un profil de personne en fonction de ce qu'elle a eu à poster sur les réseaux sociaux. Donc il faut plus que jamais éviter de poster n'importe quoi. Ça, je le répète à qui veut l'entendre, pour moi, c'est la seule chose à faire.
Éviter de poster même ces images.
Quand c'est nécessaire, je pense.
Oui, allez-y.
Effectivement, ce que monsieur est en train d'expliquer, ça veut simplement dire qu'il faut pouvoir se comporter sur les systèmes numériques exactement comme dans la vraie vie.
C'est ça.
Les systèmes numériques ne sont pas des systèmes à part. Mais bien au contraire, ce sont des systèmes à part entière qui font partie de notre vie. Donc, quand on se promène dans la rue, quand quelqu'un vous remet de l'argent, vous ne soulevez pas le billet d'argent en l'air pour montrer à tout le carrefour, pour dire on m'a remis de l'argent, regardez, likez, aimez mon argent.
C'est ça.
Vous savez qui pourrait aimer votre argent. Si quelqu'un vous traque dans la rue et qu'il vous demande de soulever votre jupe, je ne suis pas persuadé que vous allez le faire. Je ne sais pas pourquoi les gens le font quand ils sont dans une chambre derrière un écran. C'est pareil. Il faut donc pouvoir se comporter sur les réseaux numériques comme exactement dans la vraie vie. Éviter de donner des informations personnelles, éviter de beaucoup interagir, éviter de poster tout, c'est n'importe quoi. Voilà, tout simplement, et toujours faire recours aux spécialistes, toujours faire recours aux connaisseurs. Si vous avez un quelconque doute, contactez la PLCC, on les paye pour ça.
Voilà qui est dit. Donc voilà, je sens que après cette émission, beaucoup de personnes vont déranger la PLCC. Alors, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises en Côte d'Ivoire. On voit aussi beaucoup de choses qui sont mises en place, mais qui sont très peu connues du public. Et nous, on aimerait savoir, pour vous qui êtes dans le domaine, est-ce que toutes ces initiatives ont vraiment de l'impact sur la situation en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est vraiment sortie de cette liste rouge sur laquelle elle était à l'extérieur? Est-ce que ça va mieux, Herman?
Oui, je pense, parce qu'au-delà du fait que le gouvernement ait mis en place des stratégies assez efficientes, il faut dire que l'État encourage également les entreprises privées comme nous, Neurotech, à apporter de la plus-value concernant les entreprises sur place. Vous allez remarquer que dans le temps, il fallait faire recours à de la compétence extérieure juste pour comprendre ce qui se passe lorsqu'il y a une scène de crime, lorsqu'il y a un incident de sécurité. Aujourd'hui, une entreprise comme nous, on met en place des systèmes pour prévenir les incidents de sécurité. Je ne vais pas citer de films ici, mais il y a des films où on se rend compte qu'une personne est sur le terrain et d'autres sont derrière des écrans, va à gauche, va à droite, etc. Nous, on a aujourd'hui des plateformes qu'on appelle des SOC, ce sont des centres opérationnels de sécurité qui surveillent les actifs, si vous voulez, qui surveillent les entreprises 24 sur 24. Donc, moyennant une facturation mensuelle, annuelle, etc. Donc, on va apporter de la plus-value aux entreprises en les surveillant 24 sur 24. Au-delà de cet aspect, on a également des conseillers en cybersécurité qui peuvent être quelquefois en régie dans les entreprises pour justement les aider à comprendre ce que la loi dit, qui arrive également à les rendre le plus digeste possible ce que les lois disent concernant l'application des mesures de sécurité. Donc il y a pas mal d'entreprises, nous en tant que professionnels, on a, avec notre analyse comparative de 2010 à aujourd'hui, il y a une nette évolution. Et vous allez voir que ça améliore naturellement l'index de sécurité de la Côte d'Ivoire. Mmh. La Côte d'Ivoire n'est plus dans l'index tout rouge, comme vous l'avez dit. Il y a des mesures, il y a pas mal de professionnels locaux qui savent apporter de la plus-value sur les questions cyber.
Mmh. Tala, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une diminution de la cybercriminalité en Côte d'Ivoire?
Effectivement, la Côte d'Ivoire a beaucoup progressé dans ce sens, hein, de 2011 à 2024, en réalisant et en tenant justement toutes ses promesses. Donc ça va faire, on va dire, 13 années de nettoyage. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à un niveau qui est totalement acceptable, qui est sorti de la zone rouge. Mmh. Et ce n'est que de bon augure. Et comme l'a dit monsieur tout à l'heure, il y a donc l'Agence nationale de cybercriminalité qui a été mise en place il y a 2 semaines. C'est pour dire que l'État a vraiment conscience des enjeux de cybercriminalité et d'insécurité actuelle. Donc ce n'est que de bon augure.
Voilà.
Il faudrait qu'on emboîte le pas à l'État, que tous les autres acteurs emboîtent le pas à l'État. Les entreprises également doivent emboîter ce pas pour avoir également en leur sein des cellules, n'est-ce pas, de cybercriminalité. Un petit peu comme ça se fait avec la QOS, avec la SSC, la sécurité santé au travail. Il y a dans les entreprises des personnes qui sont dédiés pour la sécurité santé, qui ne sont pas forcément des médecins. Par exemple, dans le cadre de mon travail, puisque je travaille également dans la télécommunication, je suis secouriste, mais je ne suis pas forcément médecin, mais je peux intervenir. Et on sait que lui, il est chargé de la SSC. On peut également faire la même chose pour la cybercriminalité, avoir, comme on a un problème de ressources, avoir des personnes qui sont donc dédiées pour suivre effectivement les activités cybercriminalité. Est-ce que les utilisateurs sont informés? Est-ce que quand il y a des nouvelles recrues, est-ce qu'ils sont informés de la police de sécurité interne de l'entreprise, etc., etc. Donc les entreprises doivent également contacter les professionnels de la cybersécurité pour justement prendre conseil, se mettre à jour.
D'accord, voilà qui est bien cité. Et nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors très rapidement, messieurs, un dernier mot à l'endroit des internautes comme conseil que vous pourrez leur donner. On commence avec vous, Herman.
D'accord, déjà merci. Je pense que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Moi, c'est ce que je dis à qui veut l'entendre. Ce n'est pas réservé à une tranche de personnes qui ont fait des études assez avancées. La sécurité, c'est un peu comme de la politique. Qu'on le veuille ou pas, on fait de la politique quelque part. Donc pour moi, je pense que l'une des choses à entreprendre lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, etc., c'est d'éviter de poster tout et n'importe quoi. Il faut avoir une attitude responsable sur les réseaux sociaux. Une fois qu'on l'a, automatiquement, je pense qu'on va améliorer la posture sécurité à la fois personnelle et dans les entreprises également.
D'accord. Avec vous aussi, Tala, et dernier conseil à l'endroit de nos auditeurs.
Merci bien. Alors, je vais aller dans le même sens, hein, demander aux utilisateurs d'être prudents. C'est le maître mot, c'est la prudence. Qu'ils soient prudents de la même manière qu'ils le sont dans la vie réelle et surtout de se rapprocher des professionnels et des spécialistes chaque fois qu'ils ont des doutes. C'est pareil également pour les entreprises de se rapprocher des professionnels pour pouvoir se conseiller parce qu'on est en train d'aller dans l'ère, n'est-ce pas, on va avoir 50% de digitalisation en plus d'ici à 2029, donc il faut être prêt.
Merci beaucoup à vous, messieurs, pour tous ces précieux conseils. Nous voilà donc à la fin de cet entretien. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons parlé des stratégies de lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. Et pour cela, nous étions avec Tala Moifeu, ingénieur IT, qui était en ligne avec nous. Merci à vous, Tala Moifeu, d'avoir accepté de répondre à notre invitation.
Merci également à vous, Christelle, et à Radio de la Paix. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et n'est-ce pas d'échanger, d'apporter notre expertise sur ce genre de questions.
Merci beaucoup. Et avec nous dans ce studio, nous étions avec le directeur groupe du pôle cybersécurité de Neurotech, Herman Koudafoké. Merci beaucoup d'être venu dans nos studios.
Merci, c'est moi. Merci.
Et donc, nous sommes à la fin de cette émission. Moi, je retiens de tout cela que beaucoup d'initiatives ont été prises en Côte d'Ivoire en ce qui concerne la cybercriminalité, mais que les populations ont aussi besoin d'en être informées. Et donc, la sensibilisation est de mise. Et surtout, chers amis internautes, n'hésitez pas à contacter la PLCC en cas de cybercriminalité. Et voilà donc, amis auditeurs, sujet des discussions, c'est terminé pour aujourd'hui. Bonne suite de programme sur Radio de la Paix.
C'était sujet de discussion.